Vous êtes sur RTL.
Et quoi qu'il arrive, ce procès n'apportera pas de réponse au pourquoi, mais au comment, puisque ce sont des petites mains, donc on le disait à l'instant avec Cindy Hubert, chargée de la logistique, qui comparaissent. Et c'est ce que déplorait ce matin sur RTL Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur.
Je le dis très franchement, j'attends pas grand-chose du procès, parce que, par exemple, moi, les questions qui m'importent, c'est pourquoi cet attentat a-t-il eu lieu? Pourquoi n'a-t-on pas une vérité sur les dysfonctionnements? Pourquoi on a lâché dans la nature les Kouachi? Pourquoi les renseignements généraux? Enfin, ils étaient au courant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et puis d'autre part, pourquoi on a levé la surveillance de Charlie Hebdo? Il y a bien quelqu'un qui a pris une décision là-dessus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je sais que je pourrais poser la question, mais le président peut me répondre, Madame Wolinski, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça me hante, je serais peut-être plus légère si j'avais cette vérité.
Maryse Wolinski, qui était l'invitée d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Pour aller plus loin, nous sommes avec Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous partagez la frustration des familles des victimes à l'image de Maryse Wolinski?
Non, et d'ailleurs, je récuse ces expressions de petite main ou de second couteau, comme j'ai pu le lire et l'entendre ici et là depuis 24 heures. Ça témoigne pour moi d'une méconnaissance du processus terroriste. C'est pas parce que les auteurs des attentats ne sont pas là, et pour cause, ils sont morts. C'est certes une source de frustration, je l'entends bien, de la part notamment des victimes. Mais pour le reste, un attentat, c'est le dernier maillon d'une chaîne qui est idéologique, logistique, financière. Et chacun des prévenus aujourd'hui dans le box des accusés a participé, alors à des degrés divers, certes, mais à un des maillons de cette chaîne qui a permis aux attentats de se produire. Et sans ces individus, sans doute, ces attentats n'auraient pas eu lieu. Donc, ils ont tous participé, à un titre ou à un autre, à la préparation, à la planification de ces attentats. Ce sont des individus qui ont eu un rôle, donc, important.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, aujourd'hui encore, des opérations savamment préparées comme celle-là?
Malheureusement, on ne peut pas l'écarter parce que la détermination de nos ennemis est entière. Même si les organisations sont affaiblies, sont défaites pour certaines, on sait qu'ils reconstituent actuellement des capacités opérationnelles et qu'ils parviennent également à frapper. Je veux rappeler ici l'attentat, l'assassinat de Français au Niger au début du mois d'août de 6 de nos ressortissants. Ça veut dire que ces organisations ont encore évidemment la capacité de frapper. Ont-elles la capacité de projeter un attentat, comme le 13 novembre par exemple? C'est plus compliqué pour elles aujourd'hui. Mais il y a un véritable terrorisme aujourd'hui endogène, des individus qui sont inspirés par la propagande et l'idéologie de ces organisations. Charlie Hebdo a ouvert en réalité un cycle de violence sans précédent en France et en Europe en 2015, dont on a vu par la suite de nombreux attentats, sans compter bien sûr les projets d'attentats déjoués. Ce cycle, on y est encore. Il est lié à l'engagement massif de djihadistes français, en particulier en Syrie, en Irak. Et les conséquences de cette situation, on aura à la gérer pendant encore de nombreuses années, malheureusement. Et donc, ce risque va demeurer.
Donc on est encore dans ce cycle, vous nous dites. Effectivement, on voit aujourd'hui des attentats menés par des individus assez isolés. Depuis 2015, il y en a eu 17 sur notre territoire, dont 3 cette année. Cette tragédie avait révélé des failles béantes dans les services de renseignement. Depuis, il y a eu beaucoup de recrutements, mais il y a quand même encore à peu près 9000 personnes à surveiller. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas?
Alors, vous avez raison de souligner que les moyens des services de renseignement, qu'il s'agisse de moyens humains, de moyens techniques, de moyens juridiques aussi, ont été renforcés progressivement. Et c'est une bonne chose parce que c'est une guerre qui se mène, une lutte qui se mène d'abord dans l'anticipation et dans la détection précoce de ces individus pour précisément prévenir leurs agissements, les empêcher d'agir. Et vous avez relevé effectivement le nombre d'attentats. Je relèverai pour ma part le nombre d'attentats déjoués, 61 depuis 2013. C'est dire l'importance du renseignement. A-t-on les moyens de suivre tout le monde? Non, mais de toute façon, on ne suit pas tout le monde, on suit que les plus dangereux. Alors, vous soulignez ce chiffre de plus de 8000 individus fichés au FSPRT, donc oui, fichier des signalements pour radicalisation à caractère terroriste. Ce fichier, bien sûr, existe et il est important, mais il ne reflète pas pour autant l'intégralité de la menace. Aujourd'hui, 60% des individus qui ont frappé la France depuis Mohamed Merah étaient inconnus des fichiers des services de renseignement. Ça veut dire qu'on est face à une menace qui est diffuse, qui est extrêmement difficile à détecter et plus encore à entraver.
Et quel est l'état de la menace par rapport à ceux qui rentrent de Syrie et qui sont passés au travers des mailles du filet?
Alors voilà, ça, c'est une composante aujourd'hui très importante de la menace. C'est ceux qui, d'abord, sont encore sur zone. Plus de 250 Français sont actuellement en fuite dans différentes zones en Syrie, et ça constitue bien sûr une source d'inquiétude pour les services de renseignement, parce que ça se situe surtout sur un théâtre étranger auquel on n'a pas nécessairement accès. Il y a ceux qui sont encore détenus, notamment je pense à ceux qui sont détenus par les Kurdes de Syrie, des prisons, des camps dont certains s'échappent, hein, des femmes notamment, près de 20% des Françaises ont pu s'échapper de ces camps ces derniers mois. Donc ça, c'est une composante aussi à prendre en compte dans la menace. Et puis il y a ceux qui sont rentrés en France, qui ont été judiciarisés, condamnés, et puis qui sortiront de prison parce qu'ils sont partis beaucoup plus tôt et qu'ils ils ont écopé de peines relativement faibles.
C'est ça aussi qui vous inquiète aujourd'hui ?
Bien sûr, c'est une composante à part entière de la menace. J'en veux pour preuve le fait que depuis 2 ans, près de 10 incidents terroristes se sont produits en prison, soit des attentats déjoués, soit des tentatives ou des attentats perpétrés contre du personnel pénitentiaire. Donc ça, effectivement, c'est une composante aujourd'hui préoccupante. Et là, je reprends les termes du procureur de la République terroriste qui s'exprimait à ce sujet et qui parlait d'une menace effectivement préoccupante provenant de ces sortants de prison.
Merci beaucoup, merci pour votre décryptage, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme.